commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Conversation qui va porter cette semaine sur la France, la situation politique de la France. Et nous avons avec nous l'expert qui est Jérôme Jaffré, qui est le directeur du CECOP, Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Bonjour Jérôme et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Donc nous allons essayer de tirer un pas le bilan, parce que c'est évidemment trop ambitieux et un peu tôt aussi, de tous ces événements qui bousculent le pays, qui bousculent notamment l'opinion. Et nous allons commencer par le drame le plus récent, celui de Crépol, de ce village dans lequel il y a eu un raid de d'autres jeunes qui ont sorti des couteaux, qui ont tué le jeune Thomas, avec aussitôt une émotion très palpable dans l'opinion française, bien évidemment, mais aussi un contexte de, on peut le dire, un peu de surexploitation politique, au point que le ministre de l'Intérieur a parlé d'une petite guerre civile, d'autres ont aussitôt évoqué d'ailleurs la perspective éventuelle d'une guerre civile. Donc, au point de départ, peut-être Jérôme Jaffré, avec vous, nous allons voir comment cet événement secoue en profondeur l'opinion, quel est le regard des Français sur cette situation. Jérôme Jaffré.
Écoutez, c'est clair que c'est un événement qui finalement devient considérable. C'est d'abord un drame, évidemment, que la mort du jeune Thomas, mais à partir du moment où c'est une querelle politique qui s'engage, c'est devient beaucoup plus important comme événement en France. Et c'est aussi un choc pour les Français, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, un bal de village où des jeunes se réunissent, c'est quelque chose qui existe depuis toute éternité ou presque, et qui aboutit à être finalement l'endroit du jeu, du plaisir, même si la bagarre de fin de bal est un classique. Mais la bagarre de fin de bal, ce ne sont pas des couteaux de 20 cm qu'on sort, et ça n'est pas un jeune qui meurt. Il y a eu aussi un autre événement, je le cite, qui a frappé beaucoup profondément les Français. C'est cet homme de 55 ans qui meurt à Dijon d'une balle de trafiquant de drogue, balle perdue qui tue un homme dans son sommeil. On voit donc à la fois le rôle d'ailleurs de la drogue, le rôle des affrontements possibles entre jeunes qui font système pour les Français. C'est-à-dire au fond, nous avons une situation dans laquelle maintenant tout balle de village peut susciter l'inquiétude. Et donc aboutit par exemple à des sortes de rondes de surveillance, voire à des situations où les jeunes sont encouragés à eux-mêmes disposer de couteaux pour se protéger si nécessaire, ou bien les balles perdues de trafiquants de drogue aboutit à une inquiétude de tous les gens qui vivent à proximité des endroits connus comme points de deal et qui finissent par se coucher sur le sol, tous ensemble dans une pièce éloignée des façades. On voit bien que c'est un bouleversement d'inquiétude, une projection qu'énormément de Français ont. Et derrière tout cela, il y a évidemment à la fois le sentiment que la violence dans notre société devient un phénomène majeur, il met tout en cause. Et puis il y a ce que j'appellerais une bataille du récit et des conséquences politiques. Et là, le jeu des différentes formations, évidemment, ça compte dans leur stratégie, dans leur positionnement, dans leur façon de répondre à ces inquiétudes.
Jean-Claude.
Oui, non. D'abord, je dirais que il y a un problème d'accumulation, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que des phénomènes non habituels se produisent. Un professeur décapité, des juifs tués, assassinés parce qu'ils sont juifs. Il y a quand même une espèce de continuum depuis une vingtaine d'années d'accroissement de la violence politique, disons, ou de la violence sociale, distincte de la violence criminelle habituelle. D'ailleurs, il y a un paradoxe de la société, c'est-à-dire si on mesure statistiquement la violence, en gros, la société se pacifie. Mais si on fait apparaître la violence étonnante, la violence qui trouble, qui heurte l'opinion, celle-là s'est accrue. C'est lié à un certain nombre de phénomènes, dont l'accroissement de l'hétérogénéité homogénéité de la population française. Mais en même temps, ce qui me frappe dans la mort du jeune Thomas, c'est à la fois la sous-exploitation et la surexploitation. L'un conduisant à l'autre, si vous voulez. D'un côté, c'est présenté, on dit c'est une rixe de jeunes, et puis il y a un ministre de l'Intérieur, puis le ministre chargé de la communication, qui dit, la phrase exacte, c'est un drame qui fait courir le risque d'un basculement de notre société. Basculement de notre société, c'est un terme énorme. Ça veut dire qu'il est en train de se produire un phénomène historique. Et de l'autre côté, on dit c'est une rixe de jeunes. Alors, ça me frappe beaucoup par rapport aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays d'immigration à forte hétérogénéité. Et donc, quand on ouvre un journal américain, eh ben, on dit un groupe de Jamaïcains s'est heurté à un groupe de Noirs et il y a eu tel accident. Ou des commerçants asiatiques ont été agressés et il s'est produit tel phénomène. Autrement dit, la société américaine est habituée à lire dans les événements les caractéristiques de la société américaine, c'est-à-dire que les gens se regroupent par leurs liens les plus forts. Il est évident que il suffit de se promener dans la banlieue de Paris pour bien voir qu'il y a des quartiers qui sont plus ou moins ceci, ou des quartiers qui sont plus ou moins cela, et que les groupes existent. Et de ce fait, il y a, par un phénomène de la fois de pudeur et de gêne, la presse ne le dit jamais, et donc ça provoque une surexploitation en face de non-croyance dans l'information. Là, il aurait été plus simple que le procureur et que les policiers disent exactement ce qui s'était passé, et ils ne l'ont pas dit pour ne pas déchaîner ou enfiévrer les imaginations. Et comme les imaginations s'enfièvrent, elles s'enfièvrent davantage parce qu'elles sont mal informées. Et donc, il faut apprendre à vivre avec la société comme elle est et la décrire comme elle est. Ça facilitera la cicatrisation.
Jérôme Jaffray, donc on va en venir évidemment avec vous.
Un mot, si vous permettez, sur ce que dit Jean-Claude pour préciser. D'abord, ce que dit Jean-Claude Casanova, c'est un encouragement à une lecture totalement communautaire de notre société, qui n'est pas le système français.
Rêvent les Français.
Nous serions effectivement dans le basculement de société, dont très maladroitement, je le souligne effectivement aussi, le porte-parole du gouvernement a parlé. La violence, en plus, est une violence qui monte dans la société française. J'ai été très frappé des résultats d'un sondage récent de l'Institut Harris Interactive, qui a demandé si la violence envers les élus est compréhensible ou pas pour se faire entendre. Il y a à peu près un tiers des Français qui répondent « oui, c'est compréhensible, utiliser la violence contre les élus pour se faire entendre ». Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la différence de réponse par âge. C'est-à-dire que parmi les moins de 35 ans, nous arrivons à une majorité absolue, je dis bien absolue, 52% en moyenne des moins de 35 ans, répondent oui, la violence envers les élus est compréhensible pour se faire entendre. Là, il y a donc quelque chose qui ne fonctionne plus du tout dans notre système politique, qui s'appelle tout simplement la confiance et l'acceptation des règles de notre société. Et là, il y a une rupture. Alors, tout ça entraîne des conséquences politiques et une utilisation politique à partir de Crépol qui essaye pour certains de faire système.
Alors précisément, on va rentrer dans cette exploitation politique et leçon politique, parce que on a le coutume de dire maintenant à chaque événement, d'ailleurs, tout ça va profiter à l'extrême droite, avec entrée en lice d'un nouvel acteur que dénonce et que pointe le ministre de l'Intérieur, l'ultra-droite, Jérôme Jaffray.
Oui, en fait, sur l'échiquier le plus à droite, nous avons trois acteurs. Nous avons l'ultra-droite, je vais y revenir. Nous avons Éric Zemmour, qui tient le discours idéologique le plus pur. Il y a deux peuples. Arrêtez de parler d'ensauvagement ou de décivilisation parce que vous visez à ce moment-là l'ensemble du peuple français, alors que ça ne doit en viser qu'une partie. Et donc, il faut prendre toutes les mesures pour obliger la partie du peuple qu'il considère de cette façon-là, hors presque d'état de risquer de nuire au reste de la société. Il y a le Rassemblement National qui est beaucoup plus en difficulté dans cette affaire, tout en espérant profiter. Parce que le Rassemblement National, le fait qu'on sorte maintenant l'ultra-droite comme une menace Et de ce point de vue, la manifestation d'ultra-droite qui s'est produite à Romans dimanche dernier et qui répondait au meurtre du jeune Thomas a été, si je puis dire, pain béni pour le gouvernement. Parce que ça lui a permis de retrouver une position, je dirais, d'équilibre entre le risque communautaire qui inquiète énormément de Français et le risque de guerre civile qu'entretiendrait l'ultra-droite en menant des expéditions punitives, voire des ratonnades. Donc, retrouver là une position d'équilibre a été très précieux pour le gouvernement. Mais pour le Rassemblement national, la notion d'ultra-droite est dangereuse pour lui. Et de ce point de vue, parce que Marine Le Pen, elle essaye d'incarner maintenant une sorte de figure, je dirais, de l'unité nationale, d'où un ton extrêmement mesuré, tout en procédant par allusion fine pour montrer à sa famille politique d'origine qu'elle reste, c'est pas innocent, elle a employé le mot « razzia ». Le mot « razzia » pour décrire ce qui s'était passé à Crépol. Or, le mot « razzia », c'est la notion des bandes arabes qui viennent semer le désordre et la mort. Le propos allusif est d'une clarté parfaite. L'ultra-droite rapproche le Rassemblement national de ses origines, parce que forcément, il peut y avoir des militants du Rassemblement national qui participent à ce genre de mouvement, ou dont on apprend que ceux qui participent à ce genre de mouvement étaient jusqu'à une date très récente au Rassemblement national. Bref, la sortie d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale vise à mettre tout cela en valeur, et du coup, le Rassemblement national se trouve, perd un peu sa position qu'il espérait conquérir d'un parti finalement devenu très raisonnable.
Jean-Claude.
Oui, non, il est en train de se produire, je ne sais pas si Jérôme est d'accord, un phénomène de droitisation de la politique française exactement similaire au problème historique de la gauchisation de la politique française. Le Parti radical a dépassé sur sa gauche le Parti républicain, et Waldeck Rousseau et Jules Ferry n'aimaient pas beaucoup Clémenceau. Le Parti radical a été dépassé sur sa gauche par le Parti socialiste, et Clémenceau n'aimait pas beaucoup les socialistes, il les appelait les socialistes en peau de lapin. Et ensuite, le Parti socialiste a été dépassé sur sa gauche par le Parti communiste, et que Léon Blum n'aimait pas beaucoup les communistes. Et il se produit à droite, moi j'ai connu un épisode où Georges Pompidou, président de la République, a dit à Joseph Fontané, ministre de l'Éducation, « Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir d'ennemis à droite. » Il s'agissait du financement de l'UNI, et l'UNI était lié au SAC. Purement et simplement. Ils avaient le même secrétaire général.
L'UNI, c'était une organisation d'étudiants.
De droite. Et aujourd'hui, le Parti républicain, disons l'ancien parti gaulliste, a été dépassé sur sa droite par le Front national, et le Front national est dépassé sur sa droite par l'ultra-droite, et du coup se recentre. Il y a exactement le même... Parce que dès qu'on est dépassé sur sa gauche ou dès qu'on est dépassé sur sa droite, celui qui est dépassé se recentre et invoque sa modération par rapport à l'aile qui est sur sa gauche ou par rapport à l'aile qui est sur sa droite. Et c'est un phénomène classique de la dramatisation française, et il faut le dire de la fragilité politique française qui n'arrive pas à tous les Français, notamment les Français de Sciences Po, rêvent du bipartisme à l'anglaise, c'est-à-dire tel que, beaucoup plus complexe qu'on ne pense d'ailleurs, c'est-à-dire de deux grands partis se succédant au pouvoir et étant l'un et l'autre modérés.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Jérôme Jaffré, le directeur du CECOP, Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique, où nous parlons de la situation politique française, après le drame de Crépol, bien évidemment. Et au-delà, nous allons peut-être avec vous, Jérôme Jaffré, passer en revue l'ensemble des forces politiques. Nous avons parlé de la droite à l'instant, vous nous en avez parlé. Est-ce que vous voulez revenir sur les propos de Jean-Claude Casanova, ou est-ce que...
D'un mot tout de même, parce que Jean-Claude Casanova a brossé le tableau historique des dépassements, mais qui ne sont pas inéluctables en réalité, mais l'ultra-droite n'a pas dépassé. C'est pas un dépassement au sens où les socialistes prennent la place des radicaux, puis les communistes dominent à gauche à la place des socialistes. L'ultra-droite, c'est un repoussoir absolu qui, évidemment, n'a strictement aucune influence électorale. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'ultra-droite, ce que je disais, c'est que ça a permis, finalement, là, aux macronistes, et au gouvernement potentiellement, de retrouver une position. Parce que je lisais dans Le Monde cette semaine cette déclaration un peu stupéfiante dans un article du conseiller en communication d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut rendre la société française plus sereine. c'est assez stupéfiant d'un propos pareil, alors que nous vivons toutes les violences dont on parle, et ça vient en plus quelques jours après Crépol. Rendre la société française plus sereine, c'est évidemment un pari qui aujourd'hui n'a pas de sens. En revanche, la position d'équilibre pour maintenir la paix civile dans le pays, éviter les affrontements, peut être l'un des grands enjeux de la prochaine campagne présidentielle. Car là, vous avez quand même le doute qu'il y aura sur Marine Le Pen pour savoir si elle ne risque pas d'être dépassée au sens non pas électoral, mais de la pression idéologique par une ultra-droite, avec en plus le risque des révoltes dans les cités contre Marine Le Pen au pouvoir. Est-ce que cette question, si elle devient majeure, avec en plus le problème que la France insoumise, elle, joue contre complètement dans l'autre côté de l'échiquier politique, en attisant plutôt un certain nombre de conflits pour mobiliser la France des cités, comme on dit maintenant. On a donc une situation qui permet de retrouver, je dirais, la position d'éviter, et qui est la position classique de ceux qui combattent les extrêmes, à condition qu'ils ne soient pas seulement dans un bilan purement défensif, consistant à dire on gère le pays du mieux qu'on peut, on présente un bilan, il n'est pas parfait, mais on a essayé d'avancer sur les questions, à voulez-vous éviter le pire ? Si vous voulez éviter le pire, c'est avec nous.
Alors on comprend mieux en vous écoutant, Jérôme Jaffré, la sortie du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, quand il harangue les élus du Rassemblement National à l'Assemblée. C'est très exactement pour susciter un petit peu cette réaction dont vous parliez. Comment regardez-vous et comment les Français regardent-ils aujourd'hui le président de la République dans ce contexte, Jérôme Jaffré ?
Le président de la République, si vous voulez, on ne peut pas dire que la confiance règne à son égard, ni la popularité. Hein. Les dernières enquêtes sont situées à un niveau extrêmement bas. Mais il y a malgré tout la bataille de qui représente l'unité nationale et qui la défend. C'est pour ça qu'il est intéressant de constater que Marine Le Pen, Jean-Claude Casanova disait qu'elle essaye de se recentrer. Le mot me paraît un peu excessif. Disons que le ton s'est adouci et qu'elle essaye d'être une figure de rassemblement. Sur le fond idéologique, il n'y a pas d'évolution significative. Pour Emmanuel Macron, normalement et traditionnellement, le président de la République est la figure de l'unité nationale. Et si nous sommes en situation d'affrontement possible, c'est effectivement la crainte de l'affrontement. Le président de la République retrouve à ce moment-là potentiellement son rôle. C'est ça qui est intéressant et qui donc conduit, si vous voulez, à grossir la bataille contre les extrêmes. Alors, je ne suis pas sûr qu'Éric Dupond-Moretti soit une locomotive électorale, mais enfin, il a le talent oratoire qui fait et le talent de tribun qui fait tellement défaut à la plupart de ses collègues.
Plus nous avons cette particularité qui est quand même qui emporte des conséquences, elle aussi, qui est un président qui ne peut pas se représenter et donc qui est menacé dans les 3 ans et demi de mandat qui lui reste d'être un peu passé par profits et pertes par le pays. Jean-Claude.
Oui, c'est un président qui ne peut pas se représenter, mais c'est un président qui perdrait beaucoup de son image et de sa signification politique si Marine Le Pen était élue. Et donc, il va chercher, si vous voulez, peut-être, éventuellement par un changement de Premier ministre ou par des inflexions, il va essayer de présenter un cap possible qui permette à la personnalité qui, au second tour, arrivera avec Marine Le Pen, puisque la vraisemblance aujourd'hui, c'est qu'il y aura au second tour Marine Le Pen et Monsieur X, si vous voulez. Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, c'est difficile, mais si c'est Marine Le Pen, Mélenchon, le problème, le choix sera difficile et délicat. Si c'est Marine Le Pen et Monsieur X, la préparation idéologique à Monsieur X est nécessairement une proposition centrale, c'est-à-dire entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et aujourd'hui, nous sommes dans une configuration politique à trois, c'est-à-dire que ce qu'avaient prévu certains observateurs de la politique française, c'est qu'il n'y a plus la dualité droite-gauche, mais il y a en gros une dualité droite dure, modéré, centre modéré très large, allant du centre droit jusqu'à au socialiste modéré, si vous voulez, et puis une gauche durcie où le parti mélenchoniste a remplacé le parti communiste du temps où il était un parti dur. Et ce centre modéré, si vous voulez, cherche une configuration politique parce que il a des formations politiques très instables. Le parti républicain s'est énormément rétréci. Le parti macroniste est un parti qui paraît divisé, qui n'a pas une forte structure politique. Le petit parti centriste de François Bayrou est de taille réduite. Et donc, les formations politiques, les personnalités politiques n'apparaissent pas clairement. Les leaders n'apparaissent pas clairement. Et donc, après Macron, viendra une situation très incertaine et l'incertitude est très importante pour l'image future de Macron.
Jérôme Jaffré.
Oui, tout à fait. Je partage l'analyse de Jean-Claude Casanova qui est que le pire pour Macron serait évidemment qu'il doive accueillir Marine Le Pen sur le perron de l'Élysée pour lui transmettre sa fonction et faire d'elle donc accepter qu'elle soit la présidente de la République si le suffrage universel en décide ainsi. Le risque malgré tout, c'est qu'il est difficile d'aller vers l'unité de ce grand bloc central. L'unité de candidature est difficile. Les Républicains ont... Je suis très surpris de ce qui s'est passé là dans la période où Éric Ciotti a refusé, dans un premier temps au moins, de condamner la manifestation dite d'ultra-droite, alors qu'il aurait dû évidemment condamner la manifestation et peut-être contester le terme d'ultra-droite. C'eût été la façon juste de s'exprimer. Le risque est donc un effondrement complet de cette structure. Et on voit bien qu'à partir du moment où la droite n'existe plus en tant que parti politique réellement puissant sur l'échiquier, c'est évidemment une porte ouverte au Rassemblement national pour se développer, puisqu'il peut à ce moment-là occuper un terrain plus large. Non seulement Marine Le Pen cherche à incarner une figure d'unité nationale, mais elle cherche aussi à récupérer clairement une partie de la droite. On verra comment l'électeur à droite, on verra comment évolue son programme économique et social. Ça, c'est un des grands enjeux en 2027. Est-ce qu'elle, là aussi, elle modifie un peu les choses pour adoucir par rapport à un programme qui était perçu très à gauche. Jean-Luc Mélenchon, sa menace politique pour arriver éventuellement au second tour n'a pas totalement disparu parce que il continue de dominer totalement la gauche. Les autres partis de gauche, les autres leaders de gauche sont d'une faiblesse insigne dans la situation. Il dispose d'un socle électoral et il a une clarté de son discours qui est dans le soutien palestinien et le soutien de la France des cités qu'il peut mobiliser. Il y a un monsieur d'un certain âge qui, à Crépol, a accueilli Olivier Véran en lui disant « vous n'avez pas honte » et en opposant la France des cités à la France rurale. Éric Dupond-Moretti est reparti là-dessus, mais cette opposition au fond, d'une part la France rurale, elle a voté largement Marine Le Pen, la France des cités elle a voté largement Jean-Luc Mélenchon, mais dans le propos de cet habitant de Crépol, il manquait une troisième France, une France qui malgré tout jusque-là majoritaire et a gagné les élections, qui n'est pas la France rurale de Marine Le Pen, qui n'est pas la France des cités de Jean-Luc Mélenchon, qui est une France plus urbaine incontestablement, plus cultivée par des diplômes, plus aisée par les finances, mais qui touche quand même aussi une partie de l'électorat populaire, précisément en considérant que les avantages de la maintien au pouvoir de ce bloc central ne sont pas gigantesques, mais que les inconvénients de son éviction du pouvoir seraient plus grands que autre chose, et que donc le volance non lance, voulant ne le voulant pas, il faut quand même maintenir le bloc central au pouvoir.
Jérôme Jaffré, avant de terminer, parce que notre temps est évidemment, hélas, écoulé, juste un mot sur la prochaine mesure de l'état du pays, que sont les élections européennes. Est-ce qu'il faudra leur accorder l'importance que l'on accorde normalement, d'habitude, c'est-à-dire de vraiment une sorte de photographie aussi exacte que possible de l'opinion du pays et une anticipation peut-être sur les scrutins futurs, Jérôme Jaffré?
Alors, Un principe de base, c'est que les européennes ne sont pas une anticipation des scrutins futurs, et j'ai relevé, je me suis amusé à relever que pratiquement jamais le vainqueur, le parti qui arrive en tête aux élections européennes, gagne la présidentielle suivante. Ça a commencé avec Simone Veil en 1979, qui a gagné largement les européennes, avant que Valéry Giscard d'Estaing ne soit battu 2 ans plus tard, et je pourrais égrener là. Ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder non pas le vainqueur, mais les vaincus. Qui est vaincu dans le scrutin des européennes, si par exemple les Républicains tombaient en dessous des 5%, il faut 5% pour avoir des élus au Parlement européen, ce serait un séisme politique. Ce serait d'abord la disparition de cette famille politique au Parlement européen dans le groupe PPE, où les Français ne seraient plus représentés, excusez du peu. Le PPE mène la politique en Europe, au Parlement européen, c'est donc d'une importance capitale que des députés français y soient. Mais les électeurs français, ils sont assez peu sensibles comme raisonnement. Et ce serait probablement l'implosion des Républicains comme formation politique qui éclaterait sans doute entre divers rameaux. Est-ce qu'Éric Zemmour passe et reconquête avec Marion Maréchal, passe les 5%, ce serait largement la fin des ambitions d'être en dessous de 5%. Et qui à gauche, finalement, tire son épingle du jeu, puisque chacun va présenter sa liste, ça a de l'importance évidemment pour la suite. Donc c'est plutôt, vous voyez, les petites listes que je suis, si je puis dire, ou les moyennes listes que je suivrai avec passion, mais que le Rassemblement national soit largement en tête, c'était déjà le cas en 2014, c'était déjà le cas en 2019, et Marine Le Pen a été battue en 2017 et en 2022. On ne peut donc pas en tirer une conclusion définitive.
Voilà, eh bien, nous ne dirons aucune conclusion définitive de cette conversation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Jaffré, aujourd'hui. Je rappelle que vous dirigez le CECOP, Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.